Ben bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau partage. Aujourd'hui, on est à la résidence avec JP. Et puis, on a Princesse Nicole avec nous, Princesse Marilyn, Prince JP. Et moi-même, votre serviteur pour vous servir. Et puis, j'en train de regarder pour mes volumes. Et puis, on veut saluer les gens sur Internet. On veut dire bonjour à tous les gens qui nous écoutent sur Internet. Un bonjour spécial à l'Assemblée chrétienne de Saint-Just, de Bretonnière, qui est avec Pasteur Laurier, puis sa femme, son épouse Raymond. On veut vraiment vous saluer chaleureusement. Et puis, on est très touchés que vous priez pour nous. On vous remercie de prier pour notre groupe. Parce que la prière est d'une grande efficacité, comme la parole dit. Et puis, c'est peut-être la meilleure chose qu'on peut faire pour nos frères de prier pour eux autres. Et puis, ces gens-là, ils prient pour nous. Et puis, c'est quelque chose qu'on veut pas être familier avec. Donc, on veut vous remercier. On veut saluer tous les gens là-bas. Et puis, que Dieu vous bénisse abondamment dans votre dans l'œuvre qui a commencé chez vous. Et puis, les gens sur Internet ont été salués. Fait qu'on a fait nos salutations. Les gens de Radio Prédication, on salue les gens qui nous écoutent sur Radio Prédication. Et puis, on va saluer les membres de la famille qui sont pas là. Notre petite sœur Carmen, qui va sûrement écouter à distance. Notre petite sœur Hélène, notre petite sœur Lynn. Et puis, que le Seigneur les garde et qu'il les bénisse abondamment. Et puis, si vous voulez, on va prier, on va remettre ça au Seigneur et puis on va commencer. Merci, Seigneur, du privilège qu'on a d'être ici ce matin. Parce que c'est une grâce que tu nous fais. Qu'on puisse se rassembler, que tu puisses mettre dans nos cœurs de se rassembler et puis d'étudier ta parole. Puis d'étudier ce que tu as à nous dire à travers ta parole, ce que tu as caché pour tes enfants dans les Écritures. Seigneur, on te réclame cette promesse comme on le fait à toutes les fois. Que tu as dit là où deux ou trois seront assemblés à mon nom, je serai parmi eux. Seigneur, on te mérite pas. On te mérite pas, Seigneur, mais on sait que par amour, parce que tu nous aimes, tu vas être avec nous ce matin pour nous enseigner. Et puis, on te demande de venir ouvrir nos cœurs par ton Saint-Esprit, de venir nous révéler ta parole, Seigneur, de venir nous enseigner tes préceptes, afin qu'on puisse être de meilleurs ambassadeurs et qu'on puisse glorifier Christ à travers nos vies, Seigneur. Et puis, c'est pour le nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Et puis, on a, juste peut-être, Pasteur Laurier m'a écrit hier pour me parler de, tu sais, vous souvenez, j'avais parlé des étoiles dans la main de Jésus-Christ. Il y avait 7 étoiles, 7 chandeliers. Et puis, j'avais dit que les 7 étoiles, il y avait des doctrines qui disaient que c'était probablement, il y a toutes sortes de choses que les gens disent que ça peut être, là. Moi, je dis pas que c'est plus une que l'autre. Ce que je veux revenir là-dessus, c'est que selon ce qu'on lit dans la parole, les étoiles seraient des anges. Mais je veux pas qu'on élabore là-dessus, parce que des anges, ça peut être interprété aussi comme messagers. Et puis, ce que je veux faire la nuance ici, c'est que je veux pas partir ce débat-là, parce que c'est pas le but de l'étude, de savoir c'est qui les étoiles dans la main du Seigneur. Ce qui est important, ce qu'on sait par la parole, c'est que le Seigneur tient ses brebis dans sa main. Et puis que c'est nous autres qui est dans sa main. Et puis quand il parle aux 7 églises de l'Apocalypse, il nous parle à nous autres, dans le fond. Il parle à son église, aux gens. Parce qu'à chaque fois qu'il termine une lettre, il dit que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il s'adresse à tout le monde. Donc, c'est pas, je vais juste faire la nuance ici, je veux pas affirmer que les étoiles, ce que les étoiles sont et ce qu'elles ne sont pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le but de notre étude. Nous, on veut pas partir dans ces discussions-là, parce que c'est pas, pour nous autres, c'est pas ça qu'on veut découvrir. Ce qu'on veut découvrir, c'est que Jésus pense de son Église. Quelles sont les caractéristiques du Maître? C'est ça qu'on a vu au début, souvenez-vous. On a dit, quelles sont les caractéristiques du Maître? Qu'est-ce qu'il a reproché dans ces Églises qu'il y avait? Puis qu'il a apporté comme bon point? Puis nous, on a dit, on va se servir de ça pour améliorer notre culte avec notre Seigneur. Amen. Donc, la même chose pour les églises qui sont supposées représenter différentes époques dans l'histoire de l'Église. On a dit que nous, c'est pas ce qui nous intéresse. On dit pas que c'est pas ça ou c'est ça. On dit que c'est pas le but de l'étude présentement de vérifier si c'est telle église, c'était telle dispensation, et puis laquelle est laquelle. C'est encore une discussion qui, pour nous autres, dans le but de notre étude, est pas pertinente, parce que c'est pas ça qu'on étudie. Ce qu'on étudie, c'est le cœur de Dieu pour ses brebis, pour son Église, pour son corps. Et puis, quand j'étudiais ça, ça m'avait donné une belle image. je fais complètement une parenthèse qui n'est pas rapport. Mais quand j'ai dit ça, puis je me suis mis à réfléchir, à en prière avec ça, j'ai eu une image du corps de Christ, qui était son corps, puis que Christ qui était à la tête. Et puis là, le Seigneur, il me donne une image. Il me dit, ben il me dit pas, mais tu sais, il me donne une conviction. Si toi, ta tête, ta commande à ton bras d'aller chercher la souris de ton ordinateur, ben il faut que le membre du corps, il obéisse à ta tête. Sans ça, le corps va être fou. Tu sais, si ta tête commande à ton corps, à une partie de ton corps de faire tel geste, ben ton corps y obéit. Ben comme c'est pour ça qu'on étudie la parole, parce qu'en étant le corps de Christ, on veut obéir à Christ. Quand il nous donne un précepte, on veut l'appliquer. Quand il nous donne quelque chose pour notre vie, on veut l'appliquer. Pour qu'on puisse être ses outils, les membres de son corps. Quand il veut utiliser les membres de son corps pour faire quelque chose dans le monde. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on étudie à la parole. Hein? On veut être à l'écoute de ce que Christ veut pour nous, puis on veut être les opérateurs. S'il dit à la main, prends ça, mais on veut être capable de prendre ça parce qu'on a étudié sa parole, puis parce qu'on est capable d'être soumis à ce que c'est qu'il nous a demandé. Et pour ça, on sait qu'il y a un processus de sanctification, un processus de la mort du vieil homme. Et puis, il faut qu'on ait l'homme nouveau, qu'on soit renouvelé par le Saint-Esprit, par... et à rebâtir notre nouvel homme. Et puis là, on devient des membres du corps qui obéissent à la tête. Donc là, Christ peut s'en servir. Donc, c'est l'image que je voulais vous donner ce matin. La dernière étude qu'on a faite, peut-être qu'elle était percutante un petit peu. Quand on a parlé de l'Église, que le Seigneur, il dit, vous passez pour vivant, mais vous êtes mort. Et tu dis, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et puis, on avait fait, c'était dans l'Église... C'est quand il écrit à l'ange de l'église de Sardes. Et puis, on a fait un partage là-dessus qui remettait pas le salut. Vous vous souvenez, on a dit, ça remet pas le salut en question. Quand on est sauvé, puis parce qu'il dit, j'effacerai ton nom du livre de vie. Le problème, c'était pas que c'est quelqu'un qui était sauvé. Le problème, c'est que ce qu'on a vu ensemble, c'était la personne n'avait jamais été sauvée. La personne, elle se disait vivante. Elle se disait dans l'Église, elle participait, mais en dedans d'elle, elle était morte. Elle n'avait pas été renouvelée par Jésus. Elle n'avait pas reçu Jésus dans son cœur. Puis c'était en résumé ce qu'on a vu la dernière fois. Faut pas que ce soit vu comme quelque chose d'une condamnation. On n'apporte jamais quelque chose pour condamner quelqu'un. Si le Seigneur nous amène cette image-là, c'est qu'il y a des gens dans l'Église aujourd'hui, dans son Église, qui ont entendu des choses puis qui sont convaincus que ce qu'ils ont entendu, c'est vrai, mais ils n'ont jamais expérimenté ces choses. Et le Seigneur, il vient cogner à la porte. Et puis, il dit, es-tu certain, toi, que tu as reçu cette bonne nouvelle-là? Parce que c'est ça qu'il dit, hein? Il dit, souviens-toi ce que tu as entendu, ce que tu as reçu. Tu l'as-tu vraiment reçu? Et puis, c'était ça le message qu'on voulait passer par le dernier partage. Et puis, on n'ira pas plus loin là-dedans, mais ceux qui veulent l'écouter, en passant, on salue Princesse Ruth puis Princesse Claudia. Claudia m'a laissé tellement un beau message sur mon répondeur la semaine passée après qu'elle ait écouté l'étude que je l'ai gardé. Puis je vais le garder, puis quand que je vais avoir besoin d'être fortifié, je vais aller l'écouter. Fait que je voulais remercier Claudia qui m'avait laissé vraiment un beau message sur mon répondeur. C'est toujours très plaisant de voir qu'il y a des gens qui sont placés dans le corps pour nous édifier. Puis Claudia, ben, c'est une fan de Dieu, hein. Quand elle parle, ça bénit. Claudia, elle nous parle, ça bénit. Elle a toujours de quoi de bénissant à nous raconter. Hein? Nicole la fascine, là, oui. Et puis, elle l'aime beaucoup, Claudia. Et puis, Ruth, c'est pareil. Ruth, elle nous aime comme sa famille. Elle dit, je me sens comme dans ma famille avec vous autres. Elle dit, puis, nous autres, elle fait partie de la famille, nous autres aussi, Ruth, parce que c'est comme notre petite sœur, la même affaire. Puis, c'est une amie aussi à Nicole. Puis, de temps en temps, ils vont magasiner ensemble. Donc, on n'ira pas trop dans les détails, mais quand même, on veut pas être familier avec le corps de Christ. T'sais. C'est important les relations qu'on a entre nous. Et puis, c'est comme ça que Christ est manifesté. Puis, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit l'Église de la Philadelphie. La Philadelphie, dans l'original, c'est Philadelphia. Qu'est-ce que ça veut dire, Philadelphia? Tu qui le savent? Ça veut dire « celui qui aime son frère ». Ouais, c'est une belle image, hein? Il y a des commentateurs qui disent que c'est un hasard que cette église-là a été appelée comme ça, que c'était un roi qui avait appelé cette ville-là en l'honneur de son frère qu'il aimait. Ben, moi, je trouve que dire ça, c'est comme dire que Dieu n'était pas souverain. Dieu a permis que cette église-là s'appelle Philadelphia. Puis il a permis qu'elle s'appelle celui qui aime son frère. Puis ce qu'on voit, ce qu'il en dit dans les Écritures, c'est qu'il n'y a aucun point négatif sur cette église-là. On va le voir ensemble aujourd'hui. Et puis, on va voir les versets utilisés. C'est une vieille feuille que je viens. C'est pour ça que j'ai tombé un petit note, là, une autre vieille feuille. Et puis, en passant, Claudia et Ruth, nous avons vos feuilles. Nous avons vos feuilles du dernier partage. Hey, Noël s'en vient, hein? Ça va rapidement. Au grand plaisir, ben Nicole. 12 jours, ma fille, elle compte les jours. Et puis, ça va être les réjouissances dans l'honneur de la naissance du Seigneur. On sait que, je vous ai déjà parlé de ça, que selon les historiens, pardon, je viens d'arracher mon micro. Selon les historiens, Christ serait pas né dans le mois de décembre. Il serait né dans le mois d'octobre. Et puis le 25 décembre, à l'origine, c'était une fête païenne du soleil caché, là. Puis ils ont transformé ça vu que Christ est venu, puis on a dit au lieu de faire une fête du soleil, on va faire la fête du Seigneur, la naissance du Seigneur. Bon. Ce qui est important, c'est de pas donner d'importance aux dates plus qu'à l'événement en tant que tel, la naissance du Sauveur. Et puis, que Noël, c'est pas la fête des cadeaux, même si ma soeur Nicole, elle aime ça beaucoup. Mais c'est la fête de l'amour, hein? C'est la fête de la naissance d'un Sauveur. Puis on se rappelle toujours ça, nous autres. C'est ça qui est le plus beau, parce que Nicole a dit, les cadeaux, c'est l'amour, finalement. Hein? C'est, on se donne de l'amour quand on se donne des cadeaux. Nicole, elle nous donne des cadeaux parce qu'elle nous aime. Fait qu'elle manifeste son amour comme ça, en nous donnant des cadeaux. Et on lui dit, arrête, tu nous aimes trop. Donc, ça lui fait bien plaisir, et puis c'est la punir. Empêcher ma petite sœur Nicole de faire des cadeaux, c'est comme la punir. Faut pas l'empêcher de faire des cadeaux. Faut juste l'aider à faire la part des choses là-dedans. Arrête un petit peu le budget des cadeaux. Comme ça, on va être capable de manger jusqu'à la fin du mois. Hein? Super. Donc, on va lire le texte aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on pourra dire ça, on pourra appeler le partage la porte ouverte. Donc, Apocalypse 3, verset 7 au verset 13, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir à tes pieds, se prosterner. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est les versets qui font référence à l'église de Philadelphie. Premièrement, on va voir les caractéristiques du maître. Il a dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Les bons points, il dit, je connais tes œuvres. Il dit, tu as peu de puissance. Ça nous ressemble à nous autres, ça. Notre petit groupe. On a peu de puissance, nous. Mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé la parole de la persévérance. Tu as persévéré. Même si certaines fois, ce n'était pas évident, tu as persévéré. Des points à améliorer. Aucun. Aucun point à améliorer qu'on a trouvé. La recommandation, il dit « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. » Afin que personne ne prenne ta couronne. Les conséquences de tout ça, si tu fais juste ça, est-ce qu'on a vu qu'on a fait beaucoup de choses, hein, l'Église, les gens de l'Église? Ils ont gardé la parole, ils ont persévéré, puis ils ont peu de puissance. Mais voici ce qui va être la conséquence. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. C'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Il dit aussi qu'il a mis devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Donc, ils se disent de la famille, mais ils ne sont pas. Mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Donc, ça s'appelle aujourd'hui la porte ouverte. C'est intéressant. Quand on étudie ce texte-là, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que l'Église de Philadelphie, c'est pas une Église avec des œuvres épouvantables, des gros shows. C'est pas ça qu'il dit le Seigneur ici. Il a juste garder sa parole, il y avait Christ dans leur cœur, ils gardaient sa parole, ils étaient dans la simplicité, dans l'amour. C'est tout. Mais regardez qu'est-ce qu'il y a à dire de bons points sur cette église-là. C'est incroyable. Donc, Philadelphie, on va faire une petite, Philadelphia, on va faire une petite historique. On va voir c'est quoi Philadelphia, là. Il y a une ville qui était jeune, c'était environ 28 000 au sud-est de Sardes. On a vu Sardes la semaine passée, c'est à peu près à 28 000 de Sardes. C'était une ancienne cité lydienne, en Asie mineure. Bon. Elle se situait sur la route reliant Sardes à Colosse. Qu'est-ce qu'il y a à Colosse? Des Colossiens. Au niveau de l'actuel Alzeir, qui est en Turquie. Aujourd'hui, c'est l'Alzeir, ça s'appelle Alzeir, c'est en Turquie. C'était fondé en -189 par le roi Eumène II de Pergame. Eumène II nomma la ville en honneur de son frère et futur successeur, Attale II, dont la loyauté lui valut le surnom de Philadelphos. Littéralement, c'est lui qui aime son frère. Donc, Philadelphia, je pense que la traduction, c'est amour fraternel. Philadelphos, c'est celui qui aime son frère. Manquant d'un héritier, Attale III, dernier roi de la dynastie, légua son royaume, y compris Philadelphie, à ses alliés de l'Empire romain à sa mort en -133. Rome fonda alors la province d'Asie en -129, en regroupant les royaumes de Pergame. En -129, c'est 129 avant Jésus-Christ, on s'entend. La ville fut souvent touchée par des tremblements de terre et, d'après Strabon, fut plusieurs fois complètement détruite. Reconstruite par Tibère, elle fut nommée la nouvelle César. Et puis, sous l'Empire Vespasien, elle portait le nom de Flavia. Donc, il y a une petite parenthèse qu'on peut faire. On la fera pas. C'est dans le texte. Vous le lirez si vous voulez. Là. Mais ça vient de Wikipédia en passant, là, cette description-là. Pour ceux qui veulent aller avoir les références. Et puis, sur l'Empire, ça dit que le livre de l'Apocalypse aurait été écrit alentour de 90 après Jésus-Christ. Mais si on suit au texte aussi, en 90 après Jésus-Christ, elle serait appelée Flavia. Elle s'appelait plus Philadelphie. Donc, je vous dis ça juste comme quelque chose à vous mettre sous la dent, à réfléchir, à chercher. Est-ce que vraiment Jean aurait écrit ça en 90 ou du temps qu'elle s'appelait Philadelphie? Parce que l'Empire Vespasien, c'était entre 79 et 104, là. Donc, elle s'appelait Philadelphie à aller jusqu'en l'an 79 ou 69, d'après ce que je vois. Mais encore là, c'est un détail, c'est juste pour vous mettre ça sous la dent. À savoir, parce que toutes les autres villes, les descriptions des autres villes dans l'Apocalypse sont très, très précises. Donc, ils savent exactement, ils nomment exactement. Sauf que pour Philadelphia, il semblerait y avoir une ambiguïté au niveau des dates. parce qu'elle s'appelait plus Philadelphia au moment où ce que le livre d'Apocalypse a été écrit. Donc, elle serait appelée Flavia. Donc, pourquoi Jean ne l'a pas appelée Flavia au lieu de Philadelphia? Je sais pas. Il y a une raison à ça. Comme vous dites, ce n'est pas vraiment important sur le fondement non plus, sur l'importance de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est juste une parenthèse qu'on fait parce que c'était quelque chose que j'avais remarqué des commentateurs. Donc, est-ce que Jean a vraiment écrit avant que la ville a été renommée ou après que la ville a été renommée ou que pour lui c'était encore Philadelphia? Ça reste à découvrir. Il n'y a rien qui nous dit ça dans les Écritures. Mais lui, il la connaît comme Philadelphie, Philadelphia. Donc, c'était une petite parenthèse que je faisais avec vous. Dans la lettre, le Seigneur s'identifie lui-même comme le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, Apocalypse 3:7. Isaïe 22:22, il donne un indice du Vieux Testament à cette image. On va aller lire ça ensemble. Isaïe 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Donc, on voit que c'est des paroles qui ont été reprises du prophète Isaïe dans l'Apocalypse. Donc, la maison de David est probablement mieux interprétée comme Jérusalem, qui est la ville de David. Plus tard, dans la Révélation, ces images importantes de la clé est également de la ville de Jérusalem joueront un rôle important et significatif dans Apocalypse 9, Apocalypse 20 et Apocalypse 21. Pourquoi tu fais des grands yeux de même, tu pas? Parce que tu t'endors? Oui, c'est le curé, ça, oui. Oui, c'est ça. C'est le curé de l'autre qui s'en va là-bas. Ouais. Donc, la première lettre honore, et puis en même temps, je dirais pas de défi. Moi, là, il y a du monde qui dit défi, mais plus exhorte à les chrétiens qui sont là à garder leur couronne. Donc, on va défiler ce que ça nous enseigne, cette lettre-là, ensemble. J'espère qu'on a fait un petit historique sur Philadelphie. Sont honorés pour leurs travaux, leur fidélité à la parole et au nom de Jésus-Christ. Mais au-delà de ça, ils se leur sont promis qu'ils éprouveront des percées étonnantes dans leur propre ville. Le Seigneur, il dit, les autres vont venir se prosterner devant eux. C'est ça qu'il dit, là. Parce que les gens qui adorent les faux dieux dans les synagogues de Satan vont se tourner vers l'Évangile. Le défi aux chrétiens de Philadelphie était de amener loyalement la parole au nom de Christ. C'est la seule chose qu'il disait. Un des dispositifs importants de cette sixième lettre est trouvé en sa théologie de base d'évangélisation. C'est le même qui faisait l'évangélisation. Ça nous donne un enseignement sur l'évangélisation. C'est sous seulement. Donc, les caractéristiques principales qu'on va voir ensemble, c'est Jésus-Christ qui ouvre et qui ferme. Hein? C'est lui qui vous la porte, c'est lui qui la ferme. Il tient la clé décisive dans sa main. C'est ce même Seigneur qui a placé les chrétiens dans cette ville, puis qui a mis une porte ouverte devant eux que personne ne peut fermer. OK? Donc, on va voir de quoi l'Église chrétienne est responsable. En se basant là-dessus, on va voir ensemble de quoi l'Église serait responsable. Hein? Parce que c'est pour ça qu'on étudie, nous. On va voir qu'est-ce que l'Église, c'est quoi le rôle de l'Église, puis de quoi ils sont pas responsables. Si on prend la logique de cette lettre-là, les chrétiens sont chargés d'abord de rester des disciples fidèles à leur Seigneur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, d'affirmer au peuple autour d'eux, à travers leur propre fidélité, la confiance dans la parole et dans le nom de Jésus-Christ. C'est juste ça qu'il a dit dans cette lettre-là. Troisièmement, il dit, il veut de vivre dans son royaume, qui est le royaume de l'amour. Vivre dans l'amour. Quatrièmement, d'accueillir le peuple qui les étonnera en répondant à l'appel du Seigneur. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Hein? Parce qu'il dit, ils vont venir se prosterner. Donc, il va les utiliser. Il est en train de dire, je vais vous utiliser. Je vais vous utiliser beaucoup. Donc, la raison pour laquelle le peuple qui avait autrefois adoré les faux dieux viendra à la fois que Jésus-Christ lui-même a ouvert la porte. Et c'est lui qui permet ça. Il a authentifié ses disciples de Philadelphie comme ses témoins. Et c'est lui qui le fait. Donc, ce que la lettre dit, ce qui va frapper le plus les gens autour d'eux autres, de ces gens-là, c'est l'amour qu'ils ont entre eux. Puis l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Ça, les gens autour d'eux, c'est ça qui va faire qu'ils vont venir aux chrétiens de Philadelphie. Donc, l'amour qui va être au travail dans la vie de chacun des chrétiens. Puis là, on se rappelle du nom, celui qui aime son frère. Donc, ça va être dans Apocalypse 3:9b. Ils connaîtront que moi, je t'ai aimé. Le Seigneur, il dit. Puis comme ça, dans vos relations, ils vont voir dans vos relations ce que vous vous aimez. Puis là, ils disent, ils vont savoir que moi, je vous aime. Parce qu'il dit, ils vont connaître que moi, je vous aime. Puis là, ils vont dire, hey, eux autres, c'est des gens de Dieu. C'est ça qui va les attirer. Donc, en tant que chrétien, cette représentation du premier siècle est aussi appropriée aujourd'hui pour l'Église chrétienne. La commande donnée à l'Église est ni trop facile, ni trop dure. Parce qu'il dit, tu as peu de puissance. Il dit, tu peux pas faire grand-chose sans moi, tu peux pas rien faire, tu as peu de puissance. Donc, c'est ni trop dur, c'est pas des obstacles. Si on est en train d'essayer de lever des obstacles qui sont, c'est trop lourd pour nous autres, ça marche pas. C'est pas ça que le Seigneur dit là-dedans. Nous, je pense que le point le plus important du message aujourd'hui qu'on a, un des points importants, c'est qu'en tant que chrétien, on n'est pas appelé à ouvrir des portes qui sont trop lourdes pour nous autres. On est appelé à marcher au travers des portes que le Seigneur a ouvertes. Pas à ceux qui sont fermés. Donc, on peut pas rien faire par nous-mêmes, à moins que le Seigneur de la moisson nous autorise à le faire. Amen. Donc, on va voir la stratégie, on va voir comme ça, une stratégie en 4 points pour l'Église. Si on se fie à l'étude de cette lettre-là, premièrement, il y a encore un point qui est apporté ici. Il n'y a rien à partager si je l'ai pas reçu. Je peux pas partager ce que je n'ai pas. Le premier point qui est important, est-ce que j'ai reçu cet amour-là? On revient encore au dernier message, là. Est-ce que je l'ai expérimenté, cet amour-là, dans mon cœur? Si je ne l'ai pas expérimenté, je peux pas le partager. Donc, c'est le point 1. Si on le possède pas, la stratégie, elle commence premièrement par une relation vivante avec le Seigneur. À tous les jours, on a parlé de ça souvent. Le Seigneur, il va avoir cette relation père-fils ou père-fille à tous les jours. C'est là que cet amour-là va être manifesté au travers de nous parce que c'est lui qui va nous renouveler. Amen? Ça, c'est le point 1. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette lettre-là, ça nous invite à trouver une façon de proclamer l'Évangile à travers notre identité. Là, je vous dis souvent, ce qu'on fait, là, ça a plus de poids puis de portée que ce qu'on dit. Pourquoi tu ris, Marilène? Marilène, elle a un petit sourire. Ouais. Ça vient nous chercher, dans ça, quand on dit ça. Ça marche-tu? Ouais. Fait que ce que je disais, ce qu'on fait, c'est plus important que ce qu'on dit. C'est ce que la lettre dit aussi. Si il dit, ils vont connaître ce que je vous ai aimé, à l'attitude que vous avez les uns avec les autres, au genre de vie que vous menez. Quel genre de vie tu mènes? Puis, comment tu te comportes avec tes frères et sœurs? Philadelphie, c'est celui qui aime son frère ou sa sœur. Quand j'ai quelqu'un du groupe qui vient me voir, là, puis qui me dit qu'il s'accorde pas avec son frère ou sa sœur, là, je me pose des questions. Est-ce qu'on est encore dans Philadelphie, là? Pour moi, on n'est plus dans Philadelphie. Troisièmement, les chrétiens doivent vivre dans l'amour de Christ. Parce que cet amour travaille à l'intérieur d'eux et à l'extérieur d'eux. Puis, ça travaille aussi entre eux. C'est ça qui fait le témoignage de Christ dans le monde. Et puis, l'ennemi, c'est ça qu'il veut détruire. Le témoignage de Jésus-Christ parmi les chrétiens. C'est pour ça qu'on voit toutes ces choses-là épouvantables dans les églises aujourd'hui. C'est vraiment l'ennemi qui veut détruire le nom de Jésus-Christ en nous amenant à faire toutes sortes d'affaires. Donc, c'est important. Ça va être le parfum, le parfum de Christ dans nos vies. C'est ça qu'il faut fait que là, il dit, premièrement, le premier point, il dit, si tu as reçu le cadeau, puis si tu développes ta relation personnelle, ben, il dit, veux pas, ça va produire quelque chose en toi qui va faire que les gens vont dire quelque chose de spécial. Marilyn, toi, il y a quelqu'un qui t'a dit t'es pas comme les autres. Hein? Tu peux bien rire. Et puis ça va produire quelque chose. Et ça, c'est juste en développant notre relation avec le Seigneur qui va faire ça. Ensuite, cet amour-là, ça va produire un témoignage autour de nous. Puis là, les gens, c'est là que le Seigneur dit, ils vont connaître que je t'ai aimé. Et puis là, ils vont vouloir venir avec toi parce qu'ils vont vouloir connaître le Seigneur. Fait que, donc, les chrétiens, ensuite, si on suit à la lettre, sont chargés de souhaiter la bienvenue à ceux qui vont arriver. Et puis de parce que le Seigneur va amener des gens. Le peuple, il va venir en raison de va venir voir les personnes de Dieu, puis en raison de la stratégie évangélique qui est divine puis qui est humaine. Donc, voyez-vous que c'est comme ça que Dieu ouvre la porte? J'aimerais qu'on comprenne un point. Je pense qu'il est plus loin, là. Mais ça ne fait rien. Quand même, je vais vous le rappeler pour être sûr que je l'oublie pas. Le fait que Jésus-Christ est révélé à travers nos vies, c'est ce qui ouvre la porte. En avant. C'est lui qui ouvre les portes qui est ferme. Mais moi, la porte, je peux pas l'ouvrir avec ma chair. Donc, c'est en laissant Jésus-Christ opérer ses changements en moi, ben, ça va émaner quelque chose de moi. Puis cette chose qui va émaner de moi, c'est Jésus-Christ. C'est l'amour de Jésus-Christ. Va devenir un membre de son corps qu'il va utiliser. Et puis lui, c'est ça qui rouvre les portes. On comprend-tu? C'est un exemple de ça. Donc, c'est important de savoir ça. Et puis là, il dit, tu vas voir les portes s'ouvrir devant toi. Comme ça. Parce que c'est moi qui vais les ouvrir à travers toi. Amen? Donc, on est invité à amener ces personnes-là dans une nouvelle relation, puis on est souvent pas préparé à ça, hein, tu sais, on n'est pas vraiment préparé à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on recommence le processus. Le processus d'un, deux, trois, quatre qu'on a vu. Premièrement, on lui a fait développer leur relation personnelle avec Jésus. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est amener les gens dans cette relation-là. À avoir ce temps-là avec Dieu à tous les matins. À avoir ce temps-là à tous les jours avec notre Seigneur. Ce temps-là que lui veut nous faire ce travail-là dans notre cœur. Si on amène les gens à ça, mais les gens, le reste, c'est Jésus qui va le faire. Ils n'ont pas besoin de faire rien d'autre, nous autres. C'est juste de leur montrer qu'on a ce temps-là nous-mêmes avec Dieu. Puis ils vont voir ce que ça produit en nous. Simplement de leur dire, ben, si tu fais la même chose, Dieu va produire la même chose dans ta vie. Puis ça, ça va les amener à avoir aussi un temps avec Dieu. Régulièrement. Amen. Donc, on recommence le quadruple, le cycle, tu sais, puis ça recommence tout le temps. Deux choses impressionnantes à partir de la stratégie de Philadelphie, hein, la stratégie qui est expliquée là-dedans. Quand on la décortique, c'est bien fait, hein. C'est simple, mais c'est bien fait. c'est naturel, le réalisme, moi ce que je trouve, c'est le réalisme de cette évangélisation-là. Ce que j'aime aussi, c'est que ça n'idéalise pas une personne. Ça met pas une personne plus haute que les autres. Ça met pas un super chrétien qui évangélise. Ça met pas, tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Non, c'est pas ça. C'est Jésus-Christ qui rouvre les portes à travers nous, à mesure de la relation qu'on a avec lui. C'est aussi simple que ça. Donc, on n'a pas besoin d'être un chrétien modèle. On n'a pas besoin d'être un missionnaire incroyable. On a juste à développer notre relation avec le Seigneur, et lui, il va faire le reste. Puis expérimenter ce miracle-là de l'amour de Jésus-Christ en nous. Hein. C'est ça qu'il va faire. Toutes les portes vont s'ouvrir. C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont dire les gens, hey, lui, il se passe quelque chose dans sa vie, c'est certain. Sa vie a changé complètement. Donc, la deuxième main, ce qu'on voit, c'est la puissance de l'amour qui est affirmée dans la puissance. Quand on parle de la puissance, c'est tout. Combien c'est puissant, l'amour de Dieu, à travers nos vies. Combien c'est puissant quand l'amour de Dieu est manifesté à travers nos vies, autour de nous autres. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est le témoignage qui est le plus... qui est le plus... qui sert le plus à évangéliser les gens autour de nous autres. C'est pas que ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. C'est plus comme... Excusez, c'est pas ce qu'on dit, c'est plus que ce qu'on fait. Comment qu'on se comporte. Quand on a convaincu qu'on est aimé, hein? La première chose, là, quand on a de relation avec le Seigneur, la première chose qu'on sait, c'est que le Seigneur nous aime. Peu importe ce qui va arriver, il nous aime inconditionnellement. On est ses enfants, il nous tient dans ses mains. Et puis quand on devient là, certain de ça, ce que cette chose-là devient présente dans notre esprit, ben ça élimine beaucoup de choses qui viennent qu'on veut faire de quoi pour le Seigneur ou qu'on veut faire ci, qu'on veut faire ça. Non, t'es aimé comme t'es, sans que tu passes à rien. Mais déjà là, ça va changer beaucoup ta personnalité autour de toi. Tu ne seras plus en compétition avec personne parce que tu sais que t'es aimé. Puis ça va produire déjà des choses autour de nous. Connaître notre position, c'est la première chose qui est importante. Et puis notre relation avec le Seigneur. Quand on sait, on fait confiance qu'on est aimé, on a la base pour tout le reste. Et puis ça va évangéliser beaucoup. Quand que le monde observe cet amour-là que nous autres, on expérimente avec notre Seigneur, mais là, le monde, il veut avoir ce qu'on a. Oui, il y a déjà quelqu'un qui me dit, je veux avoir ce que t'as. Et il parlait avec moi, puis il dit, moi, je veux ce que t'as. Mais je dis, moi, je peux pas te le donner. Mais Jésus peut te le donner. Lui, Jésus peut te le donner. Il reste à savoir si lui a pris cette décision-là. Puis c'est là que les portes vont s'ouvrir. Quand ça va te manifester autour de toi, là, il n'y a pas une porte qui va rester fermée. Les portes vont ouvrir. C'est sûr que le Seigneur va ouvrir. Et puis c'est ça qui ouvre les portes. C'est pas nous. C'est la vie de Christ en nous qui ouvre les portes. Amen. Donc, la lettre aussi fait référence à un autre, au retour, évidemment, au retour triomphant de Jésus, qui revient bientôt. Et puis, j'espère que j'aurai pas eu de problème d'enregistrement. Je regarde mon... on fait confiance au Seigneur. Et puis, on va finir avec un texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 11, qui parle du retour du Seigneur. Donc, c'est pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Encore une fois, il dit ça va arriver quand personne va s'en douter. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Parce qu'on a reçu Jésus-Christ, on a reçu la lumière. On n'est plus dans les ténèbres. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Ce qui veut dire ici, dans les ténèbres. Ceux qui dorment, qui n'ont pas conscience, sont dans les ténèbres. Et ceux qui s'enivrent aussi sont dans les ténèbres. Ils n'ont pas vu la lumière. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ça, c'est un verset important. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. La colère de Dieu, c'est l'Apocalypse. Hein? Mais Dieu ne nous a pas destinés, ses enfants, à la colère. Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que nous, soit que nous voyons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites déjà. Amen. Donc, je vais terminer avec une petite prière en demandant au Seigneur de faire ce travail-là en nous afin que les portes puissent s'ouvrir pour la révélation de divine de ta vie, Seigneur, en nous. Puissions-nous être des ambassadeurs de cet amour divin afin que ton nom soit glorifié à travers nos vies. Amen. Donc, on va, si vous voulez, ça termine notre partage aujourd'hui. Si vous voulez, on va prier, et puis on va inviter les gens, encore une fois, ceux qui voudraient avoir cette relation-là personnelle avec le Seigneur, puis la développer, expérimenter l'amour de Dieu, la manifester, qu'elle se manifeste à travers leur vie. On va voir ensemble qu'est-ce que la parole dit à propos de ça. Premièrement, la parole dit que il y a une condamnation qui pèse sur l'humanité présentement, que l'homme est séparé de Dieu dans son état actuel. Par contre, on voit ça dans Romains 3, 23 en passant et dans Romains 6. Par contre, on voit que Dieu a pourvu une solution à cette séparation-là. Il a envoyé son Fils mourir à la croix, prendre la punition qui pesait sur nous, sur lui. Il a pris cette punition-là sur lui, à la croix, il a fait le paiement pour nous. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de recevoir ce cadeau, de le croire. Dans Jean 3,16, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 1,12, c'est celui qui a cru, qui a reçu. Reçu, ça veut dire prendre comme partenaire. Et puis, la Bible dit que si aujourd'hui, tu décides, tu prends cette décision de te repentir, de te tourner vers Dieu, de demander pardon au Seigneur pour tes péchés, de te tourner vers Dieu, demander de que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi, pour tes péchés, et que tu lui demandes de venir habiter en toi, que tu l'acceptes comme ton sauveur personnel. La Bible dit, au cas où, aujourd'hui même, tu deviendras un enfant de Dieu et que tu passeras l'éternité dans la présence de Dieu. Tu vas expérimenter ce qu'on a tous expérimenté dans notre famille sans vouloir être hautain ou vouloir se péter les bretelles, comme on dit. Mais nous, ce qu'on a expérimenté, on peut pas vous le dire. On peut pas le dire aux gens parce qu'on l'a vécu. On a vécu cette expérience-là en dedans de nous autres quand Christ est venu nous visiter et qu'il nous visite encore par son Saint-Esprit. Cette nouvelle vie qu'il nous a donnée dans ce monde perdu. Et puis aujourd'hui, si tu veux, prends cette décision. C'est une décision que tu faut que tu prennes. Avec ton cœur. Si dans ton cœur, tu dis, oui, Seigneur, je me repens aujourd'hui. Et puis je veux t'accepter comme mon sauveur personnel. La Bible dit qu'aujourd'hui même, tu vas expérimenter cette nouvelle naissance. Tu vas naître de nouveau. Et puis là, c'est une nouvelle expérience incroyable qui va commencer pour ta vie. Puis si tu veux, on va prier avec toi. Et puis tu n'as qu'à prier avec nous, si tu veux, dans ton cœur, parce que Dieu regarde plus à ton cœur. Et puis, si tu demandes à ton Seigneur de venir habiter en toi, il est fidèle, il va venir. Et parle-lui comme tu parles à ton Père, comme tu parlerais à ton Père, qui t'aime, et puis qui attend que tu lui fasses cette invitation-là pour venir vivre en toi. Donc, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Je le crois et je l'accepte. Seigneur, viens dans mon cœur et sauve-moi. Seigneur Jésus, je veux te prier pour les gens qui ont fait cette prière, que tu touches leur cœur puissamment maintenant, qu'ils ne puissent jamais douter qu'ils sont sauvés, qu'ils ont la vie éternelle, qu'ils vont passer l'éternité dans ta présence, Seigneur. Envoie-leur les ouvriers, qu'ils deviennent tes disciples, qu'ils deviennent le sel et la lumière pour ta gloire, Seigneur Jésus, compris. Amen! Merci beaucoup.